Vous êtes sur RTL.
8h. Place à l'info RTL Soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Céline, bonsoir à toutes et à tous. Oui, c'est parti RTL Soir. 2 heures d'infos, de témoignages, de débats et de rires, hein, puisque Philippe Cavrivière sera de la partie. Au programme ce soir, le fiasco des autotests qu'on présentait comme une nouvelle arme pour sortir de la crise sanitaire. Pile un mois après leur arrivée en pharmacie, le bilan est plus que mitigé. La faute à qui? À quoi? Eh bien, on posera la question à Gilles Bonnefond, le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Et puis, autopsie d'un quadruple meurtre, bientôt jugé d'ailleurs, ce sera le mois prochain. L'affaire de la famille Troadec, perpétré sur fond de paranoïa et de trésors imaginaires. Le journaliste François Rousseau a enquêté pendant 4 ans. Il publie pour tout l'or du monde et il sera avec nous après 18h30. Pour l'instant, c'est RTL Soir première édition avec Aude Vernouchiot. Bonsoir Aude.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Et on découvre avec vous les autres grands titres de l'actualité de ce jeudi 13 mai.
Troisième jour de traque dans les Cévennes, le père du fugitif appelle son fils à déposer les armes. Un sentiment de liberté retrouvé en ce pont de l'Ascension. Bison futé voie rouge en Ile-de-France et en Rhône-Alpes-Auvergne dans le sens des départs. Et puis l'incroyable destin du petit Pousset en foot. Rumilly affronte ce soir l'AS Monaco en demi-finale de Coupe de France.
Voilà. Et puis il n'y a pas que Bison Futé qui voit rouge, hein, parce que Louis Baudin, c'était pas terrible aujourd'hui et ça sera pas mieux demain.
Exactement, avec encore la même situation instable, changeante, hein, on l'a encore vu cet après-midi, avec parfois de belles éclaircies, puis hop, à un autre moment, reviennent les nuages avec des averses, parfois accompagnées d'orages, en train d'arriver sur l'île de France par exemple, ou encore dans le sud-ouest, et demain, bah, c'est la même chose, avec au réveil, peut-être un petit peu moins d'averses, et puis au fil des heures, ces averses vont se multiplier quasiment dans toutes les régions, parfois accompagnées d'un orage, ça n'empêchera pas quelques éclaircies, un peu plus belles peut-être l'après-midi quand même, près de l'Atlantique, aller en bord de mer, peut-être plus de chances d'avoir du soleil, ou encore sur les bords de la Méditerranée, mais parce que là nous aurons du Mistral et de la Tramontane, ça n'empêchera pas quelques averses sur la Corse. Les températures toujours aussi fraîches le matin, en dessous de 10 degrés, l'après-midi 14 à 17 degrés, pas plus dans la plupart des régions, il n'y a que près de la Méditerranée où encore une fois on atteindra les 20 degrés.
On s'en contentera et on se retrouve tout à l'heure, Louis.
RTL Soir.
Cette traque qui n'en finit plus dans les Cévennes, l'homme de 29 ans qui a tué son patron et un collègue dans le Gard est toujours activement recherché. Le père du fugitif lui lance un appel.
Valentin, c'est papa, je t'aime, nous t'aimons, Iroise est magnifique, elle a dormi dans mes bras pendant 2 heures, elle a besoin de toi, de son papa, Blandine a besoin de toi, nous avons tous besoin de toi. J'ai la garantie qu'il n'y aura pas feu si tu te rends maintenant. Mon fils, fais-moi confiance. Je t'aime. Nous sommes tous avec toi. Bisous, papa.
En attendant, les recherches se poursuivent. Les habitants des Plantiers sont toujours calfeutrés. La gendarmerie a lancé ce matin un appel à témoins. Quels en sont les résultats, Hugo Hamelin?
Eh bien, plusieurs dizaines d'appels en seulement quelques heures. Des habitants d'une commune à proximité qui ont entendu de nombreux coups de feu à la mi-journée. Mais après vérification du GIGN, rien de probant, aucun indice. Nous n'avons aucun signe de vie du tireur présumé depuis 3 jours, vient de déclarer le général de gendarmerie qui pilote 350 hommes qui sont toujours sur place. Le suspect est toujours dans les collines, pensent les enquêteurs. Il a peut-être construit un ou plusieurs postes de combat dans cette forêt où il s'entraînait fréquemment au tir à longue portée. Un survivaliste dont se méfient les enquêteurs. Tous se rappellent le triple homicide dont les gendarmes avaient été victimes au mois de décembre en Auvergne, tué par un homme dont le profil présente des points communs. 3 jours après le début de la traque, toutes les unités d'élite sont aujourd'hui en échec dans les Cévennes et le tueur court toujours.
Hugo Hamelin en direct des Plantiers dans le Gard pour RTL.
Encore du monde sur les routes et dans les gares pour ce pont de l'Ascension.
Bison futé, voie rouge en Ile-de-France et en Rhône-Alpes-Auvergne dans le sens des départs. Ce soir, ce sera orange partout ailleurs. Certains sont arrivés à destination dès hier soir avec une brûlante envie de changer d'air. Étienne Baudu, vous êtes sur la Côte Bleue au camping Le Mas et le flux de vacanciers ne s'arrête pas.
Ah non, effectivement, et la réception ne désemplit pas. Depuis hier soir, Audrey vient d'arriver de Grenoble, heureuse avec son mari et ses 3 enfants. Ces quelques jours étaient devenus presque indispensables.
Oui, il fallait, oui, urgent, parce que le contexte est particulier, qu'on a besoin de se faire plaisir. C'est plutôt changer d'air, le repos, on l'a tous les week-ends depuis quelques mois, donc c'est plutôt changer de cadre. Marcher, faire du vélo, prendre le soleil, prendre l'apéro, voilà.
Et oui, un apéro, même avec modération, mais un vrai, pas un virtuel, un apéro sur la terrasse du bungalow, et peut-être partagé avec les voisins d'à côté, Florence et Didier. Eux viennent aussi d'arriver en moto de Charvieux, près de Lyon. Il faut décompresser.
C'était vraiment la mer, le grand air, le soleil un peu.
Être déconfiné surtout, pouvoir bouger.
La liberté. Donc, voilà. On a l'impression que la vie reprend tranquillement.
Et ce n'est pas Rosa, la géante du camping, qui dira le contraire. Elle affiche un grand sourire. Elle aussi est heureuse de retrouver ses clients.
Les gens, dès l'annonce gouvernementale des « Ok, on enlève les 10 km », ils se sont dit « On y va ». On y va, on n'attend pas la météo, on n'attend pas les restaurants, on n'attend pas la piscine, on y va quand même.
Et Didier, même si la Grande Bleue est encore un peu frisquette, n'avait qu'une envie, enfiler son maillot et aller piquer une tête.
Étienne Baudu, près de Martigues pour RTL.
Ça fait envie quand même, hein ?
Oui. Alors malgré ce petit temps de respiration, les autorités de santé incitent les Français à se faire tester. Dans les Hauts-de-France, l'Agence régionale de santé a prévu de distribuer plus de 40 000 autotests ce week-end, et notamment dans les gares. Une opération qui rencontre visiblement du succès à l'Île-Flandre.
Vous ouvrez la tablette, vous y déposez 4 gouttes, oui. Et vous avez le résultat en 10 minutes.
Mais c'est extraordinaire. Donc on peut se débrouiller tout seul et il y a l'explication dedans.
Oui. Par contre, si vous êtes négatif, tant mieux pour vous. Si c'est positif, allez voir le médecin traitant, faites le PCR et lui fera le nécessaire pour les arrêts de travail.
Mais c'est super.
Bon voyage.
J'ai bien fait de demander, c'est une bonne idée. Je peux en avoir un pour mon mari ? Je vais en famille, justement. Donc c'est très bien. Ça va permettre de voir si on peut se libérer un petit peu. Parce qu'en fait, quelquefois, dans les moments, on se dit est-ce qu'on peut voir ses petits-enfants, etc. Et là, ça va donner de l'autonomie et ça, c'est formidable parce que ça va pouvoir permettre aux gens de renouer aussi des relations sociales.
Des propos recueillis par Antoine Decarne pour RTL.
Les autotests, on va en parler parce que ça fait un mois aujourd'hui qu'ils sont disponibles en pharmacie. On ne peut pas vraiment dire que ce soit un grand succès. On sera tout à l'heure avec le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, Gilles Bonnefond.
On passe au compte à rebours, J-6, avant un café en terrasse, une visite au musée ou un déjeuner au resto.
Marcel, 2 cafés pour la 4, s'il te plaît. Et un soda pour la petite dame.
Et RTL vous fait vivre les coulisses en attendant le jour J. Réouverture aussi des cures thermales avec une jauge de 50%. 113 établissements se préparent, comme celui du Mont d'Or dans le Puy-de-Dôme, Guillaume Frixon.
Oui, nettoyer, ranger, désinfecter les petites mains des thermes ne chôment pas. Mercredi, les 200 premiers curistes venus de toute la France débuteront leurs soins. Alors Patrick Briet a les yeux rivés sur son ordinateur. Il gère tous les achats de la station thermale.
La priorité, c'est l'hygiène, toutes les fournitures d'hygiène, tout ce qui répond au protocole Covid, et également très essentiel, les fournitures qui permettent aux curistes de faire leurs soins, donc des fournitures thermales, des matières comme du kaolin, on fait des soins à base d'argile.
Avec le port du masque obligatoire, même dans les piscines, et du gel omniprésent, tout a été pensé pour sécuriser les accès à la cure, comme l'explique Kachincha, le responsable technique de la station.
Des indicateurs au sol pour les espacements. On a fait du cloisonnement dans nos bassins, du cloisonnement au niveau de tout ce qui est réception et accueil pour éviter les croisements.
Et en 15 jours à peine, il a fallu tout vérifier et tout contrôler.
Le plus urgent, c'est donc de nettoyer et désinfecter tous les réseaux d'eau pour qu'on puisse après approvisionner les bassins et tous les postes de soins.
Les premiers curistes du Mont d'Or franchiront les portes de la station thermale mercredi à 7h pour 18 jours de soins. Très attendu.
Reportage de Guillaume Frixon dans le Puy-de-Dôme pour RTL.
Allez, on va marquer une courte pause. Dans un instant, ce sera le pèlerinage de Fatima qui reprend au Portugal. Et puis du cinéma dans l'ISS. La course est lancée. A tout de suite.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
Et Aude Vernouchiot pour la suite de son journal, avec ses pèlerins masqués, plus dispersés que d'habitude, mais de retour à Fatima, au Portugal, en ce jeudi de l'Ascension.
Quelques milliers de personnes qui brûlent chaque année des cierges à partir du 13 mai. C'est aussi là que 3 jeunes bergers avaient affirmé avoir vu la Vierge en 1917. Un pèlerinage annulé l'an dernier pour cause de pandémie. Reportage sur place de Mao Le Butler pour RTL.
Fauteuil de camping, polaire, bougie, les fidèles sont préparés à passer des heures dehors pour se recueillir. Avec moins de chaleur humaine que d'habitude, pour Martha, il manque quelque chose.
C'est triste, il faut respecter les restrictions pour le bien de tous, mais on ressent le vide. Quand le sanctuaire est plein, ça prend une autre dimension.
Sur l'immense esplanade du sanctuaire, les pèlerins sont installés à l'intérieur de cercles peints sur le sol. 4 personnes par cercle, c'est la solution trouvée pour respecter la distanciation. Lorinda s'est déjà mise à prier, un chapelet entre les mains.
Je suis en train de faire mes 1000 « Je vous salue Marie » pour cette pandémie qui frappe le monde entier.
Paolo est scout et fait partie de l'organisation du pèlerinage.
Moi, je crois que les personnes ont peur de venir aussi parce que le corona, c'est encore vivant. Il faut être protégé. Et ces 7500 sont les courageux. Ils sont là pour eux et pour les autres.
Pour permettre à tous de participer, Fatima aussi est passée au numérique. Le sanctuaire diffuse les célébrations sur les réseaux sociaux.
Mao Le Butler à Fatima, au Portugal. Jour également symbolique pour les musulmans qui fêtent la fin du Ramadan. Des célébrations de l'Aïd assombries par la montée des violences entre Israéliens et Palestiniens. Tirs de roquettes, frappes aériennes, affrontements. Le dernier bilan fait état de 83 morts depuis lundi et plus de 480 blessés. Emmanuel Macron condamne ce soir fermement les tirs revendiqués par le Hamas. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, veut lui interdire les manifestations pro-palestiniennes. Elles sont prévues samedi à Paris, dans le quartier Barbès, en raison des troubles à l'ordre public constatés lors des derniers rassemblements en 2014.
Allez, on part maintenant dans l'espace. Vous vous rappelez sans doute, dans les années 60, cette guerre entre Américains et Russes pour conquérir la Lune. Eh bien, c'était pas du cinéma, ça. Or, ce qui va se passer peut-être prochainement dans la Station Spatiale Internationale, on sera sans doute.
Ah oui, c'est bien là qu'un film devrait être tourné. Seule question, qui y parviendra en premier? Les Américains veulent y envoyer l'acteur Tom Cruise et les Russes ont bien envie de les prendre de vitesse. Ils annoncent qu'une équipe rejoindra l'ISS en octobre, Félix Grasso.
Ce n'est pas Tom Cruise, mais vraisemblablement une blonde au teint opalin de 36 ans qui sera la première actrice à tourner dans l'espace. Les mois qui viennent s'annoncent donc chargés pour Yulia Peresild, comme l'explique le patron de Roscosmos, l'agence spatiale russe, Dimitri Rogozin.
La préparation intensive commencera le 1er juin. Nous souhaitons à ceux qui ont été choisis aujourd'hui de réussir fièrement cette épreuve.
Dmitri Rogozin est également l'un des producteurs de Défi, titre de travail de ce qui est présenté comme un drame spatial qui sera réalisé par Klim Shipenko avec l'aide de la première chaîne télévisée russe. Un choix qui ravit son directeur, Constantin Ernst.
Il était important de pouvoir aider Roscosmos, non seulement dans un projet scientifique, mais aussi un projet qui ramène l'énergie, l'amour, la passion pour l'exploration spatiale habitée.
Si tout va bien, Yulia Peresild décollera donc pour l'ISS le 5 octobre, mais en cas de pépin prévoyant, Roscosmos a prévu une doublure en la personne d'Aliona Mordovina, preuve de l'importance que les autorités accordent à ce projet.
Félix Grasso, le correspondant d'RTL à Moscou, et espérons qu'il trouve peut-être un petit rôle pour Thomas Pesquet, qui sera encore là-bas, hein, il sera prêt à descendre sur Terre.
En football, dernier match de demi-finale de Coupe de France ce soir avec cette affiche étonnante. Le petit pousset, Rumi Vallière affronte l'AS Monaco à 21h15. Le club de 4e division rêve de créer l'exploit poussé par des supporters chauds bouillants. Ils attendent les joueurs qui devraient passer en minibus dans quelques minutes.
On va venir voir le départ du bus. Le bus va passer là, du coup on va être là, on va faire un peu de bruit, on va encourager quoi, et puis on va suivre le match après à la maison tranquillement. Ouais, c'est d'apporter un peu de supporterisme quoi, un peu de force pour nos copains qui représentent bien notre région. Faire du bruit, leur montrer qu'on est là quoi. Ça nous donne l'occasion de nous voir aussi tous entre potes, tout ça, et ouais, ça fait plaisir, c'est une bonne occasion de faire la fête malgré tout.
Alors en croisant les doigts,
on n'aura plus de voix demain.
Non.
On est les cheveux en bleu. On a mis des petites peintures sur le visage et tout. On a acheté le t-shirt collector et tout avec GFA contre Monaco. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est
et
ouf quoi.
Et on est très beau.
On est très beau.
Ah bah, y a de l'ambiance, dites donc, à Annecy, hein, qui accueillera donc ce match. Ses supporters de Rumilly, ils étaient au micro RTL de Raphaël Vantard.
Et puis la finale de Ligue des Champions, Manchester City-Chelsea, aura finalement lieu à Porto le 29 mai prochain. Les Anglais ne pouvant pas se déplacer à Istanbul en Turquie en raison des risques liés au Covid.
Moi, je prendrais bien une petite bonne nouvelle.
Hein. RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Alors question, que feriez-vous avec $1 million?
Oh là, beaucoup, beaucoup de choses.
Vous avez le temps d'y penser, les Américains de l'Ohio, eux, qui vont se faire vacciner contre le Covid, devraient y réfléchir dès maintenant, parce que face à la baisse des candidats, l'État de l'Ohio organise une loterie pour inciter les habitants à se faire piquer, et à la clé donc, le million.
Ah oui, ça vaut bien une petite piqûre. Hein,
une
ça,
seule
hein.
condition.
Même un AstraZeneca.
Une seule condition, avoir plus de 18 ans. L'argent sera tiré du budget fédéral qui est mis en place pour faire face à la pandémie.
Merci, c'était Aude Vernuccio qui reviendra évidemment à 18h30 pour nous rappeler l'essentiel de l'actualité. On va marquer une petite pause rapide et puis dans un instant accueillir Gilles Bonnefond. Il est le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Il vient nous parler des autotests qui sont en place dans les pharmacies. Normalement, depuis un mois, c'est l'heure du bilan, entre notices erronées et désamour. À tout de suite.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
Invité d'RTL Soir, le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Bonsoir Gilles Bonnefond.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous pour faire le point sur les autotests Covid hein, dont on a tant parlé à leur arrivée. C'était il y a exactement un mois et qui depuis semble avoir un peu fait pchit. On va en parler, mais quand même avant cela, un mot de ce gros bug, et on en a parlé ce matin sur RTL. Près de la moitié des autotests livrés à l'éducation nationale, notamment pour les lycées, comportaient une erreur de notice. Il était écrit qu'en cas de résultat négatif, le Covid était détecté. Alors évidemment, il fallait dire l'inverse. Comment c'est possible ? Ça arrive, ça, des notices erronées ?
Ça peut arriver malheureusement, hein, sur quand il y a un petit peu de précipitation parce que la commande a été passée très rapidement par les pouvoirs publics, un problème de traduction certainement entre l'anglais et le français. Voilà, donc c'est malheureux. Donc je pense que le laboratoire va renvoyer à tous ceux qui ont ces boîtes erronées une bonne notice pour la remplacer. D'où l'intérêt aussi de passer par un professionnel de santé, parce que le professionnel de santé va expliquer aux patients comment utiliser ces tests et ne pas se contenter de lire la notice. Oui, voilà, c'est un bug, ça arrive. Le tout, c'est que ce soit rattrapé, détecté très rapidement. On n'a pas eu de même bug dans les d'abord au niveau des autres laboratoires et également les boîtes qui sont arrivées dans les pharmacies. On n'a pas eu ce signalement.
Alors, on a évoqué dans le journal la distribution hein, pendant ce pont de l'Ascension de milliers d'autotests, distribution gratuite notamment dans les Hauts-de-France, dans les gares. C'est pour inciter à se tester avant d'aller rencontrer du monde, de la famille, des amis. Vous le recommandez, ça ?
Oui, bien sûr. En fait, les autotests, il faut faire très attention. D'abord, la France est un pays où on teste, parce qu'on a mis à disposition de toute la population, gratuitement, les tests antigéniques et les tests PCR. Et ça, ce sont des tests qui permettent de faire un diagnostic, qui permettent d'enregistrer sur une base nationale et qui permet de suivre l'épidémie. Et ce n'est pas le choix qu'ont fait d'autres pays. D'autres pays font payer, parfois très très cher, ces tests. Donc les tests arrivent en complément d'une organisation en France qui est très favorable au dépistage et à la gratuité de ces tests quand il y a intervention d'un biologiste ou intervention d'un pharmacien ou un autre professionnel de santé. Mais ils peuvent être complémentaires dans deux cas. Le premier, c'est ce qu'on a vu avec l'éducation nationale, d'abord dans les lycées, ensuite dans les collèges. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un lycée de 900 élèves, si vous avez un risque de Covid, il faut dépister 900 élèves de suite. Il ne faut pas le faire sur une semaine, sinon ça ne sert à rien. Pour pouvoir détecter les positifs, pour qu'ils puissent faire un PCR immédiatement, et tous les patients en contact, enfin tous les élèves en contact, faire un test antigénique pour voir s'ils ne sont pas positifs. Donc ça ne peut se faire que si on l'organise avec une espèce d'auto-prélèvement, mais supervisé par les agences régionales de santé, par la médecine scolaire.
Mais ça, c'est un peu la théorie, parce que selon les retours qui nous parviennent, les établissements, ils n'ont pas encore en nombre suffisant les autotests pour les lycéens.
Effectivement, ils n'ont pas trop de tests ou ils n'ont pas reçu. L'organisation à l'intérieur du lycée et du collège est compliquée. Il faut demander l'autorisation aux parents, donc ce n'est pas simple. Bon, voilà, c'est le constat que l'on fait aujourd'hui. Mais ceux qui le font, c'est très utile. Ensuite, ça peut être également les entreprises qui passent d'une organisation de télétravail à une organisation de travail en présentiel où il peut y avoir une volonté d'utiliser les autotests pour éviter et avoir un test tous les deux jours, tous les trois jours, pour être sûr que personne n'est positif. Et ensuite, l'autre utilisation, c'est ce que vous nous avez décrit. Ce sont des personnes qui vont éventuellement, voilà, trois couples, faire une soirée en gardant les gestes barrières, mais on préfère se dépister avant de se rencontrer. C'est une bonne chose. Des personnes qui vont voir des personnes âgées, peuvent se dépister. Et également, tous ceux qui interviennent auprès des personnes âgées, qui sont des travailleurs, aides à domicile.
Pour eux, c'est gratuit, ces autotests. Ils vont en pharmacie, c'est gratuit. Mais est-ce qu'ils viennent, finalement ? C'est ça la question, parce qu'on en parle beaucoup. Bien. Vous dites que c'est une solution intéressante, y compris pour les couples qui vont rencontrer d'autres couples pour une soirée. Mais dans la réalité, on a le sentiment que personne ne vient les chercher, ces autotests.
enfin, pas personne, mais très peu. D'abord, toutes les pharmacies ont référencé. On a fait une enquête il y a 10 jours, justement, pour voir où on en était. 98% des pharmaciens les ont référencés et les mettent à disposition. À peu près 60% des personnes qui sont concernées par ces tests gratuits, dans 60% des pharmacies, sont venues chercher. Donc là, effectivement, il faut recommuniquer auprès de ces personnes. Et puis, 92% des pharmaciens en ont délivré aux personnes qui en avaient besoin. Par contre, là où c'est embêtant, c'est qu'on a fait des refus de vente. Parce que des personnes venaient en ayant des symptômes ou en ayant été contactées par l'assurance maladie pour faire un dépistage. Et l'autotest n'est absolument pas préconisé pour les personnes qui sont en contact ou des personnes qui sont symptomatiques. Et donc, les 92 ou 93% des pharmaciens leur ont proposé des tests antigéniques ou réorientés. Ouais.
En tout cas, le constat est que pour l'instant, au bout d'un mois, alors c'est peut-être un petit peu tôt pour faire un bilan, mais quand même, c'est pas mal. Au bout d'un mois, le succès n'est pas au rendez-vous. On sait que certains pays ont fait le choix de la distribution de ces autotests dans la grande distribution, dans les grandes surfaces. Ça n'a pas été décidé ainsi en France. C'est peut-être ça qui fait que le succès n'est pas là.
Non, je ne crois pas, parce que quand la grande distribution en Allemagne les a mis en place, il y a eu un succès au départ, parce qu'en plus, ils ont joué sur la rareté, il n'y en aura pas pour tout le monde, le coût du prix coûtant, le prix d'appel, etc. Sauf qu'en Allemagne, les tests sont payants. Quand on fait un test antigénique, on participe, quand on fait un test PCR. Donc en France, on voit bien que le positionnement des autotests n'a rien à voir avec les autres pays. Si les pharmaciens ne les avaient pas référencés, eh bien, on aurait pu dire qu'il y avait un problème, mais pas du tout. On a même encadré le prix, qui va baisser d'ailleurs le 15 mai, qui va passer de 6 euros à 5,20 euros. Mmh. Donc on voit bien qu'on est sur une stratégie de positionnement de ces autotests dans un cadre de santé publique, et pas simplement d'en faire de la distribution. Parce que le danger de ça, c'est que si des personnes remplacent l'autotest au lieu de faire un test antigénique, eh bien, on va perdre tout le suivi de l'épidémiologie, parce que quand on fait notre test, on n'enregistre pas. Par contre, ils vont peut-être avoir un rôle intéressant au moment du pass sanitaire, quand on va aller voir un spectacle. On va peut-être se dépister avec un test antigénique, ou on peut faire ce qu'on appelle un autotest supervisé, c'est-à-dire le prélèvement est réalisé par l'individu, ce qui fait gagner du temps quand on va aller voir un match et qu'on n'a pas fait de test avant, et il est interprété par un professionnel de santé pour pouvoir l'enregistrer.
Donc on passe à la pharmacie avant d'aller au stade ou au spectacle. Il y a quand même une polémique, je pense à l'épidémiologiste Martin Blanchière qui finalement vous accuse, vous les pharmaciens, de ne pas jouer le jeu. En gros, il vous dit, vous orientez le patient vers les tests antigéniques parce que c'est plus rémunérateur pour vous.
Bon, c'est des polémiques ridicules. En plus, les tests antigéniques viennent de baisser de tarif. Hein, ils viennent de passer de 33 à 29. Ils vont passer à 25 euros au 1er juillet.
Non, à 25 euros, c'est plus que 5 euros. Hein.
Oui, bien sûr. Mais c'est 25 euros remboursés, ce qui veut dire que c'est gratuit pour le patient. Ce n'est pas le problème, puisqu'on voit bien que même les gratuits, ils ne viennent pas les chercher. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de communication. Et on l'a dit au ministère pas plus tard que la semaine dernière. Ils sont en train de réaliser une affiche pour permettre de dire vous êtes contact, vous êtes symptomatique, pas d'autotest. Vous êtes dans telle et telle situation. Vous pouvez prendre un autotest, ça peut être utile à condition de l'utiliser dans un nombre de conditions. Donc voilà, il ne faut surtout pas qu'on perde ce qu'on a réussi à faire en France, c'est-à-dire un suivi très précis de l'épidémiologie, département par département. Sinon, on va perdre de l'information et ça, on n'arrivera plus à gérer la crise de Covid au moment où on se déconfine.
Donc il est temps, dites-vous, de faire une grande campagne d'information pour dire aux Français qu'ils peuvent aller en pharmacie chercher un autotest et moins de 6 euros et pour certains c'est gratuit. Merci en tout cas de l'avoir dit ce soir sur RTL. Gilles Bonnefond, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Dans un instant, ce sera l'œil de Philippe Cavrivière.
Bonsoir
Philippe.
Bon,
grosse actu, hein, avec entre autres ces tensions entre Israël et la Palestine. L'Union européenne appelle à la désescalade.
Ah, bah tout va s'arranger alors. L'Europe a dit, il suffit, hein. Vous désescaladez tout de suite. Alors, dans ce conflit, permettez-moi, on ne se pose pas la bonne question, Vincent, Louis. On se demande qui a commencé, alors qu'il faut plutôt se poser la question, qui arrête en premier maintenant. Alors, Tiens, petite question. Est-ce qu'on en a parlé à Julien Courbet, spécialiste des conflits de voisinage, et à Maître Fellonneau, peut-être?
Eh ben, je ne sais pas, mais c'est une bonne idée.
Je ne sais pas,
on va lui poser la question. On va faire ça pendant la pub. Bah, et en attendant les infos, on se retrouve tout de suite, Philippe.
RTL Soir.
Cavrivière est dans les starting blocks, mais on va pas faire un faux départ.
Non.
On va laisser la priorité à l'info. Aude Vernouchiot est là.
Vincent Parisot, RTL Soir.
L'essentiel de l'actualité.
Troisième jour de traque dans les Cévennes. Hélicoptères, GIGN et plus de 300 gendarmes à la recherche d'un homme de 29 ans. Il est soupçonné d'avoir tué son patron et un collègue dans le Gard. Il n'est pas loin. Selon le commandant des opérations, le père du fugitif appelle son fils à se rendre dans un message transmis par la gendarmerie. Quelques jours de vacances avec ce pont de l'Ascension. Sur le plan sanitaire, les autorités appellent les vacanciers à se faire tester avant de rejoindre leur proche. Le feuilleton des régionales en PACA, la secrétaire d'État Sophie Cluzel ne présentera pas de liste face à Renaud Muselier, mais elle apporte son soutien au président sortant LR. Situation extrêmement tendue entre Israël et la bande de Gaza, plus de 80 morts et 480 blessés depuis lundi. Ce soir, Emmanuel Macron condamne les tirs revendiqués par le Hamas. Et puis en football, demi-finale de Coupe de France ce soir, le petit pousset Rumi Valière affronte l'AS Monaco à 21h15.
Aude Vernouchiot qui reviendra tout à l'heure, juste après le journal de 19h, pour C'était il y a un an, un siècle. Nous sommes le 13 mai. Je peux vous dire qu'il s'en est passé des trucs. Un 13 mai. En tout cas, le 13 mai 2021, il est un peu pourri dans le ciel. Hein. Franchement, Louis Baudin, on aurait pu rêver mieux pour ce pont de l'Ascension.
C'est vrai, mais pour le 14, ça sera pareil. Ça sera pas forcément
bon,
bah
merci
mieux.
D'être venu.
Voilà, on continue avec des averses dans la plupart des régions. Bon, on sera comme alternance, un peu comme aujourd'hui, entre lunettes de soleil et parapluie. Hein. Vous avez vu, on joue entre les deux. Et ben, ça sera encore le cas dans la plupart des régions. Un peu plus de soleil quand même demain après-midi, près de l'Atlantique, ou encore sur les bords de la Méditerranée, avec l'aide du Mistral et de la Tramontane, un peu de neige en montagne, des orages parfois, toujours en cours d'après-midi, un peu plus fréquent dans l'est et le nord, puis les températures, toujours pas de saison, 14 à 17 degrés demain après-midi au nord comme au sud, il n'y a que près de la Méditerranée où on dépassera parfois les 20 degrés.
Il faudra être patient, j'ai l'impression, parce que jusqu'à milieu de semaine prochaine,
au moins,
vous ne voyez rien venir.
Non, en tout cas, pas de changement notable.
Merci, à tout à l'heure. Voilà, vous l'avez entendu, il est bien là, Philippe Cavrivière. Bonsoir. Alors,
bonsoir.
Aujourd'hui, c'est l'Aïd. L'Aïd qui marque la fin du Ramadan. C'est quand même l'occasion de souhaiter une bonne fête à tous nos auditeurs musulmans.
Exactement. Et ça tombe bien que ce soit vous, Vincent, car Thomas Soto ne peut pas encadrer les musulmans. Moi, ça me gêne à chaque fois, on dirait Jean Messia. Je ne sais pas ce qu'il a contre.
Non, mais je ne vous crois pas.
Non, je déconne. C'est les juifs qui détestent.
Non.
Je plaisante. Alors, j'aimerais profiter de l'antenne. Pour souhaiter un joyeux Aïd Moubarak, n'est-ce pas, à tous nos auditeurs musulmans, monsieur Parisot. Alors, ils sont quatre auditeurs musulmans, donc on peut les citer. On salue Mehdi, Abdel, Dounia et Benoît. Ouais, c'est un converti.
Alors, bon,
on
n'en
a que quatre, on aimerait en avoir plus.
Voilà, Philippe, on va quand même parler des tensions, des tensions à Jérusalem entre Israéliens et Palestiniens.
C'est le retour du classico. C'est un peu le PSG-OM du Proche-Orient. Et c'est toujours la même équipe qui prend une branlée depuis des années. Alors, il faudrait que le Qatar rachète la Palestine pour muscler la défense centrale. Le processus de paix est mal barré, on en parlait. On a pensé à tort qu'on pouvait compter sur l'expérience de Joe Biden, qui a bien connu Moïse, mais non. Les Israéliens, je résume, ont récupéré leur vie d'avant. Les Palestiniens, eux, veulent récupérer leur territoire d'avant. D'où les bisbilles.
Les petites bisbilles.
Vous avez vu qu'Israël a un dôme de fer pour éviter les missiles.
Ouais.
Les Palestiniens ont un dôme en papier crépon plus léger, plus printanier, mais moins efficace. Alors Israël essaie de négocier avec la branche armée du Hamas, si je puis me permettre, c'est une connerie. Il vaudrait mieux parler à la branche bisou du Hamas. Alors est-ce qu'il y a une branche bisou du Hamas? Moi je suis chroniqueur, je ne suis pas spécialiste du Moyen-Orient.
Mais je ne la connais pas.
On ne la connaît pas. Alors vous vous rappelez qu'au mois de septembre, notre courageuse réaction quand un avion a passé le mur du son au-dessus de Paris, on a tout de suite visité le dessous de nos tables. Civils israéliens et palestiniens vivent ça fois mille tous les jours. Donc faites ce que vous voulez, mais trouvez une solution, appelez Pascal le grand frère ou Julien Courbet, ou réglez ça dans un club échangiste, ça va réouvrir. Je propose, moi, en vrac.
Bon, allez, on revient en France. On va pas se mentir, Philippe, on a tous l'esprit tourné vers ce 19 mai.
Alors, À ce propos, je préviens notre Miss Météo, Louis Baudin. Et je préviens Peggy Broche et Evelyne Delia. Il y a une grosse attente sur la météo du 19 mai, Louis. Oui. Hein.
Mais un petit doute quand même.
Bien sûr. Alors, on est d'accord, il y a le conflit israélo-palestinien, mais nous aussi, on a nos angoisses. Est-ce qu'il fera beau le 19 mai? C'est sûrement la météo la plus importante de votre vie, Louis. Hein. On est en plein mercato, vous vous démerdez comme vous voulez. Hein. Vous me trouvez un anticyclone des Açores ou je ne sais pas d'où, mais vous le mettez au-dessus de nos têtes. Hein. Je vous préviens que le 19 mai, bison bourré voie rouge dans le sens des arrivées en terrasse, moi j'y serai à 6h du matin.
Hein. Ah, oui.
Comme les blaireaux, vous savez, qui mettent leurs serviettes sur les transats au bord de la piscine dans les clubs vacances.
Vous les avez connus, ceux-là aussi?
Club Med,
et tous les ans, ils reviennent.
4h du mat, ils mettent la serviette.
Bon, allez, sans transition, on l'a vu cette semaine. 20 ans de prison requis contre Nordal Delandais.
Oh, à 6 jours de la réouverture des terrasses, hein. C'est ballot le pauvre. Entre lui et Fourniret, quand même, sale semaine pour les tueurs en série. Ils sont en pleine deuxième vague, les pauvres. Cela dit, ça tombe bien, cette incarcération de Nordal, parce que Mimiche Fourniret avait libéré sa chambre individuelle en début de semaine. Bon, j'espère qu'il a fait son petit lit en partant.
Ouais. On revient quand même à la politique maintenant. Vous l'avez vu, Benjamin Griveaux démissionne de son mandat de député.
Oui, notre Benji, la malice s'en va. Alors, si on devait retenir une mesure de Griveaux, je dirais 27 cm au repos. Hein,
ah, vous avez vu les mêmes images.
Un rôti pour 6 personnes, comme dit ma bouchère. Il va créer un cabinet pour conseiller les chefs d'entreprise dans leurs choix stratégiques. Moi, je ne suis pas certain que ce soit son truc, les choix stratégiques. Vous imaginez sa première leçon aux chefs d'entreprise? Envoyez une photo de son bilan. Yeah. Bien. Envoyez une photo de son bazar. Voilà, il progresse.
C'est vrai que c'est pas mal. C'est clair comme ça. Allez, sans transition, quoique, vous l'avez évoqué, les clubs échangistes, ils pourront rouvrir le 19 mai, c'est ça? Car ce sont des bars-restaurants et pas seulement des discothèques.
Alors déjà, rhabillez-vous, Vincent. Ne précipitez pas les choses. Ils ne peuvent rouvrir seulement que pour la partie restauration.
Ouais.
Donc on pourra échanger une cuisse de canard de monsieur contre un morceau de saumon de madame. Ça reste sauf. Benjamin Griveaux pourra échanger son rôti pour 6 personnes contre un carpaccio de dorade. Alors attention, je vous mets en garde de tous. À la réouverture des clubs libertins, il n'y aura que les papy-mamies vaccinés. Donc moyenne d'âge 85 ans. Ouais. Si c'est pour galocher une mémère qui perce ses dents dans sa coupe de champagne, ce sera sans moi.
Ouais, on n'est pas sûr d'y aller.
Hein. Oui, on va attendre la deuxième semaine.
Philippe, un mot quand même pour finir de l'association dont vous êtes le parrain. Je rappelle, c'est l'association Léo. Hein. Ah bah voilà, un petit lion. C'est l'association qui lutte contre les cancers pédiatriques et qui lance un Léo Pierrot Bike Tour. C'est quoi?
Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont deux papas, Mike Chanoyon et Frédéric Collomb, qui font un challenge à la mémoire de leurs deux garçons, Léo et Pierrot. Mike et Fred feront 1500 km sans assistance, sans dopage, sans OPO, de Saint-Malo à Nice.
C'est pas comme dans le Tour de France.
C'est pas comme dans le Tour de France. 1500 km, c'est un exploit supplémentaire pour Mike qui sera sur un vélo enfant avec des petites roues. Oui. Parce qu'on a trouvé que ça à sa taille, le pauvre Mike chez Decathlon. Il est tout petit, Mike Chanoyon. Ça se passe du 22 mai au 10 juin. Mais comme les deux sont absolument nuls en cyclisme, ils vont peut-être arriver fin septembre ou octobre. Ils vont s'arrêter dans les principaux hôpitaux à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, à Nice. Et ils vont offrir la peluche Lion à tous les enfants. Alors, si vous voyez deux monsieur en collant moulant et en sueur offrir des peluches à des enfants, ne paniquez
c'est
pas.
C'est louche comme ça.
N'appelez pas les flics ou la protection de l'enfance, c'est pour la bonne cause.
Ouais.
C'est l'association Léo. Alors, on peut suivre Mike et Fred sur le site de l'association Léo. Il y a des cyclistes qui vont les accompagner. Il y a des gars en Harley qui vont faire un bout de chemin avec eux. Il y a une cagnotte en ligne, association Léo. C'est bizarre, j'ai toujours... Moi, j'ai le lien avec mon mail. J'ai toujours des petits dons. Et j'ai jamais des gros, les entreprises, tout ça, qui nous écoutent.
C'est l'occasion.
Alors, il y a Woodstock, magasin de déco à Saint-Égulfe. Ils m'ont dit de ne pas le dire. Donc, je le dis, comme je suis mauvais camarade.
Ouais.
Ils ont donné 10 000 euros. Et ça, c'est magnifique.
Ouais. Chapeau.
J'ai une pensée pour mon pote Luciano Denis. C'est un petit franco-mexicain qui se bat en ce moment. Il a passé une semaine difficile. Vamos, Luciano. Et voilà, association Léo. Et on écoute la petite chanson préférée de Léo.
C'est quoi?
C'est ça. C'est bien. Oui, ça s'appelle MacLean. Mort, featuring Skylar, Great Glorious. Hein, c'est ça. C'est bien, ça met la pêche.
Oui, c'est sympa.
Association Léo.
Avec le petit lion, l'association Léo, vous pouvez aller voir
le bouquin,
ça, évidemment, sur Internet. Et puis, pour vous gondoler. Voilà, merci pour vous gondoler. Eh bien, vous pouvez toujours aller réécouter Philippe Cavrivière. C'est un bonheur, mais de toute façon, il sera là de retour.
Bon, on se retrouve très vite, mardi, jeudi.
Mardi, jeudi, c'est sur RTL le soir. Merci Philippe Cavrivière.
Salut.
Et dans un instant, François Rousseau, il publie Pour tout l'or du monde chez Fayard après 4 ans d'enquête sur l'affaire Troadec. Vous vous en souvenez sans doute de ce quadruple meurtre perpétré sur fond de paranoïa, de trésor qui n'a sans doute jamais existé. En attendant le procès du principal accusé en juin, eh bien on va redécouvrir cette affaire absolument incroyable. À tout de suite.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
Invité d'RTL Soir, François Rousseau, bonsoir.
Bonsoir Vincent Parisot.
Vous êtes journaliste et vous publiez votre premier livre, je crois.
Exact.
Pour tout l'or du monde, chez Fayard. Alors, c'est un récit enquête absolument passionnant sur ce qu'on a appelé l'affaire Troadec. Vous en souvenez sans doute, ce meurtre des 4 membres d'une même famille, le père, la mère et les 2 enfants, c'était en février 2017, disparus mystérieusement de leur domicile de la banlieue de Nantes. D'ailleurs, à l'époque, on baigne dans l'affaire du pont de Ligonnès. C'est pourquoi vous vous intéressez au départ à cette histoire ?
Ben, c'est vrai qu'à cette époque, il se trouve que je travaille dans une émission d'actualité de France 2 et qu'on vient de me demander de faire un petit reportage sur l'affaire du pont de Ligonnès. Donc je fais ce reportage, me plonge dans les archives et quelques jours plus tard, un matin, dans ma cuisine, j'entends à la radio qu'une famille entière a disparu à 4 km de là. Évidemment, ça suscite chez moi une curiosité journalistique instantanée et donc je vais commencer à suivre ce feuilleton sans jamais imaginer que je vais en faire un livre un jour. Mais l'histoire, tout de suite, me donne des fourmis dans les jambes et je pars pour une traversée de 4 ans en essayant de disséquer cette histoire dans ses ressorts les plus profonds.
Ben oui, parce que on va remonter le fil de cette histoire qui trouve son origine bien avant 2017. En fait, c'est l'histoire d'une haine intrafamiliale, une haine cuite et recuite autour d'un hypothétique trésor remontant à la Deuxième Guerre mondiale.
C'est ça. Pierre Troadec, qui était le patriarche de cette famille, un breton pur sucre, aurait trouvé en 2006 des lingots d'or dans la cave de son immeuble du quartier de Recouvrance à Brest en faisant des travaux. Mmh. Il en aurait parlé comme
ça.
Il en
a parlé un peu en se vantant.
Il en parle
en disant,
un peu.
Le million.
Voilà. Et moi, j'ai rencontré des gens qui connaissaient Pierre Troadec, qui est décédé en 2009, qui me disent, oh, Pierre, avec lui, on savait jamais si c'était du lard ou du cochon. Ouais. Donc, il ne savait pas bien s'il avait vraiment trouvé de l'or ou pas. En attendant, le gendre qui vient d'entrer dans cette famille, qui s'impose tout en velours dans cette famille, Hubert Caouissin, lui est persuadé que son beau-frère Pascal et sa femme Brigitte se sont emparés de ce trésor. Et il va vivre pendant des années avec cette obsession en lui, se sentant comme un laissé pour compte, avançant avec un profond sentiment d'injustice.
Il va suffire par exemple que les Troadec changent de voiture,
voilà,
pour qu'il imagine que c'est avec l'argent du trésor.
Qui roule sur l'or alors qu'ils achètent des voitures d'occasion, qui contractent un prêt de 6000 euros, même étalé sur plusieurs années pour pouvoir payer la voiture d'occasion. C'est des gens qui... Voilà, c'est des gens qui ont toujours travaillé, qui ont transmis ce sens du travail à leur fils Sébastien, à leur fille Charlotte, et qui ont vécu modestement dans un pavillon des années 60. Alors oui, ils ont fait quelques week-ends à Rome, à Amsterdam, en prenant des vols low cost de l'aéroport d'Orvault qui est à côté de chez eux, mais toute l'enquête montre que ces gens n'ont pas un train de vie dispendieux.
Alors, ce beau-frère, il est fatigué, il fait un burn-out, et c'est aussi l'histoire d'une dépression, d'une dérive, d'un enfermement, parce que cet homme, Hubert Caouissin, sa femme, Lydie, et leur fils, ils vont se couper du monde. Mais littéralement, se couper du monde. L'enfant sera déscolarisé, et ils vont vivre dans un endroit, un trou où personne ne va.
C'est un confinement avant l'heure, en fait. Ils achètent cette ferme en 2015. Lui, il fait un burn-out. Il travaille à l'Arsenal de Brest. Et ils jettent leur dévolu sur cette ferme avec des dépendances qui est vraiment nichée au creux d'une vallée et au milieu d'une forêt de 32 hectares. Et ils vont vivre comme ça en autarcie. Et moi, je l'écris dans le livre, c'est une détresse qui ne dit pas son nom. Ça sointe la solitude et l'enfermement. Et il y a une bascule, il y a une brisure dans leur vie. Mais ils vivent avec cette obsession que le couple Troadec leur a pris une part de leur dû. Et les avocats le disent, il se monte un film et il a manqué de gens autour de lui pour lui dire, arrête tes conneries. C'est ce que dit dans le livre Patrick Larvor, qui est l'avocat brestois de Hubert Caouissin.
C'est donc la jalousie qui est le moteur de ce massacre ?
C'est la jalousie, on s'observe dans cette famille, on s'épie, on s'enregistre. Il faut la regarder non pas par un trou de serrure comme la nuit glaçante d'un quadruple meurtre, la nuit du 16 au 17 février 2017. Il faut la regarder sur le temps long, parce que c'est comme souvent dans les faits divers, il y a des querelles d'héritage, on se regarde. Il y a le psychiatre Daniel Zaguri, qui est très réputé, qui a eu cette phrase un jour où je l'interviewais quand je travaillais pour le journal Le Monde. Il m'a dit, dans les batailles d'héritage, c'est pas la petite cuillère en argent qu'on regarde pour se battre, c'est la main qui tenait cette cuillère. C'est quelque part, papa t'aimait plus que moi. Et il y a de ça dans l'affaire Troadec.
À l'arrivée, ce massacre, mais on ne sait pas tout du déroulé. Vous avez mené cette enquête pendant 4 ans, vous ne savez pas tout, parce que on sait que la famille donc a été tuée, mais on n'a pas vraiment retrouvé les corps.
Les corps ont été démembrés, calcinés.
On a retrouvé quelques morceaux dans la forêt autour de cette ferme abandonnée. On n'a pas retrouvé
les crânes.
Ça veut dire que le procès qui va se tenir aux assises de Loire-Atlantique à partir du 21 juin, donc le mois prochain, va juger un homme pour une tuerie sur la seule base de ses aveux, parce qu'on n'a pas retrouvé l'arme, on n'a pas vraiment retrouvé les corps. En tout cas, pas de quoi conclure quoi que ce soit sur les causes de leur mort. Et lui va plaider une forme de légitime défense d'une bagarre qui a mal tourné.
Ses avocats vont plaider l'accident en disant qu'il s'est introduit au domicile des Troadec pendant la nuit pour essayer de trouver, de s'emparer du double de clé, pour essayer de trouver des documents prouvant qu'ils auraient de l'or et qu'il a réveillé le couple en faisant du bruit, qu'il est descendu et que c'est une bagarre. Mais les parties civiles n'entendent pas les choses de cette oreille. Et j'ai rencontré les sœurs de Brigitte Troadec qui sont des femmes très unies, très battantes, qui m'ont dit on va au procès avec un couteau entre les dents. Elles sont convaincues que c'était prémédité. L'enquête ne l'a pas montré à ce stade. De toute façon, l'instruction est bouclée. Donc, il y a un vrai enjeu autour de ce procès.
Ce qui est incroyable, c'est qu'on n'ait pas retrouvé notamment l'arme du crime, alors que...
Non, il y a une enquête colossale, hein, XXL. Il y a même des archéologues qui se sont déplacés dans la ferme pour essayer de retrouver les crânes. Le pont de l'Iroise a été fouillé, enfin le l'Iroise a été fouillé pour essayer de retrouver ce qui dit être un pied de biche, mais c'est un procès qui s'ouvre sans arme du crime, sans mode opératoire déterminé avec exactitude et en l'absence des crânes de la famille. Et l'avocate des parties civiles, Cécile de Oliveira, dit dans le livre, c'est parce que c'est dans les crânes qu'il y a la solution et c'est pour ça qu'on ne les a pas retrouvés. Donc, effectivement, il y a plein de zones d'ombre pour l'ouverture de ce procès.
Ça sera un procès, évidemment, qu'on suivra sur RTL à partir du mois prochain. Mais avant cela, pour bien comprendre les tenants, les aboutissants de cette affaire assez vertigineuse et qui nous en dit beaucoup sur les rapports intrafamiliaux, quand ça dérape,
ça dérape
bien. C'est une plongée
dans la souffrance, mais dans la psychologie humaine. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire, d'être dans la psychologie.
Et c'est très réussi. C'est chez Fayard, François Rousseau, pour tout l'or du monde. Merci d'être venu ce soir sur RTL.
Merci à vous.
On va marquer une pause avant d'écouter les mauvaises nouvelles de Louis. Allons-y.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
Bon, mais avant les mauvaises nouvelles de Louis Baudin, c'est évidemment la culture de l'actu, comme chaque soir sur RTL. Vous savez, quand la culture illustre l'actualité. Or, aux États-Unis, vous l'avez sans doute vu, des files d'attente cette semaine devant les stations-service. Ça, après le piratage du réseau d'oléoduc, les Américains ont fait le plein d'essence par peur de manquer. Alors, du coup, Guillemette Frankel, vous êtes sorti les mains du cambouis pour nous parler de station-service.
Oui, et je vais commencer par vous faire un aveu, Vincent. J'ai toujours adoré l'odeur de l'essence. Ah oui.
Mais... Surtout le gasoil. Hein,
ça j'adore, mais j'ai dû me rendre à l'évidence. Et ben, en fait, c'est pas vraiment un amour partagé.
J'ai plaqué mon job à la station-service. C'était plus supportable. Les filles qui montraient leurs cuisses, rien que par vis dans le décapotable.
Ah, Bachung.
Mais oui, regardez les jolies filles. À la station-service, ça le rendait mélancolique, Alain Bachung, en 1978. Franchement, c'est le seul. Alors aujourd'hui, c'est vrai, on n'en voit plus beaucoup, hein, les pompistes. Vous savez, ces garçons avec la casquette rouge, la chemisette beige qui vous faisaient votre plein d'essence.
Et le pare-brise,
évidemment, le pare-brise. Mais au grand écran, heureusement, eh bien, il y a un pompiste qu'on ne risque pas d'oublier.
Qu'est-ce qu'il a, ton manteau? Il est brûlé?
Mais c'est pas à moi ce manteau, c'est un copain, ça.
Ah oui?
Il a brûlé dans une station-service, ce manteau. Et tu sais qui c'est le mec qui était dedans quand il a brûlé?
Non, je t'ai dit. C'est toi, Mahmoud. C'est toi.
T'es un poulet?
Non.
Et c'est Coluche, bien sûr, désabusé dans Ciao Pantin. Il obtient le César du meilleur acteur pour ce rôle. C'était en 1984.
Magnifique Coluche hein, dans Ciao Pantin. Mais dans la station service, il y a aussi les belles voitures qu'on regarde.
Bien sûr, et d'ailleurs, on y va pour les faire briller.
Ça ne nous rajeunit pas, ça.
C'est pas vrai.
Station Service, chanté par Richard Anthony dans les années 70. Il était pressé, sans doute, de rejoindre une femme qui l'attendait. Et la Station Service, c'est aussi le moment de parader, hein, de montrer sa belle voiture et bien sûr, sa virilité.
Voici un de chez les Capulet.
Provoque-le.
Bouh. Je vais leur faire la nique. Pour eux, ce sera la honte s'ils le supportent sans broncher.
Scène de provocation à la station-service entre les Montaigu et les Capulet. C'est du Shakespeare, mais pas vraiment. C'est la scène d'ouverture de Roméo plus Juliette, film de 96, avec Leonardo DiCaprio. Oh, inoubliable, Leonardo DiCaprio. Vous ne pouvez pas avoir loupé ce film.
Ça, je l'ai bien loupé, je l'ai même complètement oublié.
Ah, c'est parce que vous, voilà, non, mais vous n'avez pas un cœur qui aime Leonardo DiCaprio, comme moi. Et Claire Danes, il ne faut pas oublier Juliette.
Très bien. Le boss, peut-être. Open all night, Bruce Springsteen est évidemment à la recherche d'une station-service parce que la station-service, c'est l'oasis du routier.
Ouais, des kilomètres de route et la station-service au bout, c'est vraiment un phare dans la nuit. Mais la station-service, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi un lieu de danger. Vous vous souvenez de cette scène mythique dans Les oiseaux d'Hitchcock, un pompiste attaqué par un oiseau, l'essence qui se déverse et un homme qui craque une allumette.
Ah, watch out!
Ça brûle bien, là. Ouais. Et donc... pas ce qui m'avait fait le plus peur dans les oiseaux. Mais...
Et pour finir,
oui.
Nous allons parler peinture dans Gas, peinte en 1940. Edward Hopper peignait la solitude d'un homme. On voit donc cet homme debout, seul, à côté des pompes rouges et derrière... la forêt, c'était peut-être déjà les prémices de la société de consommation.
Ah oui, ça, les pompes rouges, c'est pas ses chaussures, hein, c'est la
oui, évidemment,
de la station
c'est là
service.
Où on prend l'essence parce qu'on parlait de station.
On est bien d'accord. Merci.